15 minutes encore. Le strogonoffe connu dès le XVIe siècle comme collectionneur du livre russe, à partir du milieu du XVIIIe siècle, francophone et bilingue, ainsi que la plupart des aristocrates. Notre étude est consacrée au rôle de la langue française dans l'éducation et dans l'activité de plusieurs représentants de cette famille, dont la vie embrasse la période à partir du milieu du XVIIIe siècle jusqu'aux années 1840. Le français à cette époque est loin d'être seulement un moyen de communication, oral ou écrite. Cette langue est inséparable des formes de sociabilité de la bonne société. Elle est le moyen pour un aristocrate européen de se façonner selon un certain modèle. Pour cette raison, je ne parlerai pas seulement de l'usage et de la maîtrise de cette langue chez les Stroganov, mais aussi de toutes ces formes de sociabilité qui demandaient la connaissance du français et qui faisaient constamment référence au modèle culturel français. Il s'agit de trois générations. Tout d'abord, Alexandre Sergeyevitch Stroganov, le premier comte du nom de Assis. Ensuite, son fils Paul ou Pavel Alexandrovitch et sa belle-fille Sophie ou Sofia Vladimirovna, née Galitsine, et leurs enfants. Cette famille proche de la cour impériale fut liée par des liens parentaux à beaucoup de familles aristocratiques russes, influencées par la culture française. Comme l'attestent les papiers des archives privées, correspondances, cahiers d'études, journaux de lecture, catalogue de la bibliothèque, catalogue des objets d'art, les Stroganov maîtrisaient parfaitement la langue française. Ils séjournaient de longues années à l'étranger, surtout en France, avaient un grand nombre de connaissances dans ce pays, possédaient de belles collections de livres français, correspondaient en français avec des étrangers, avec leurs compatriotes et entre eux-mêmes. Le comte Alexandre Sergeyevitch Stroganov fut une personnalité éminente de lumière russe et européenne. L'un des médecins les plus distingués, célèbre franc-maçon, il remplit des fonctions importantes à la cour et dans l'administration de l'Empire. Au début du XIXe siècle, il fut nommé président de l'Académie des Beaux-Arts et directeur de la Bibliothèque impériale publique. Alexandre Sergeyevitch apprit la langue française à la maison avec ses gouverneurs et l'améliora pendant son grand tour à travers l'Europe et au cours de ses études à Genève. Nous connaissons le nom d'un précepteur qui l'accompagnait pendant son séjour en Europe. C'est Jean-Antoine. Originaire de Berlin, de confession protestante, il a obtenu une place chez les Stroganov, probablement grâce à la recommandation de l'académicien Gerhard Friedrich Miller, proche de cette famille. Il n'est pas exclu que ce fut Jean-Antoine qui rédigea une grammaire française qui se trouve dans les archives de Stroganov. On peut dater ce document du milieu du XVIIIe siècle. La grammaire comprend 9 chapitres, c'est juste 30 pages, qui contient des règles de base de la prononciation, de la morphologie, de la syntaxe et leur brève explication, avec un minimum d'exemples. Ces règles sont présentées de manière claire et simple, sous forme de questions-réponses, la forme qui était bien répandue à cette époque. Au début, ce manuel propose des conseils didactiques, explique la raison d'apprendre le français. Quelle est la plus générale de toutes les langues vivantes en Europe? C'est la langue française. On la parle communément dans toutes les cours de l'Europe. Et les Français réfugiés en ont conservé l'usage dans les pays où ils se sont retirés, comme en Allemagne, en Angleterre, en Hollande et en Prusse. Il faut signaler surtout cette mention des Français réfugiés. Jean-Antoine, comme j'ai déjà dit, était lui-même un huguenot venant de la Prusse. Plusieurs de ses compatriotes, professeurs de langue expérimentés, s'occupaient de l'enseignement auprès de la jeunesse russe. Les exemples faisant la référence à un pays de séjour devait faciliter l'étude de la langue. Je demeure à Moscou, ou bien je viens de Moscou. Tout le texte de cette grammaire est en français. Donc, l'auteur s'adresse aux élèves déjà maîtrisant bien cette langue qui doivent l'améliorer. Apparemment, c'est le cas d'Alexandre Stroganov qui partait de Russie en 52 à ses 16 ans. Son itinéraire passe d'abord par l'Allemagne, la Suisse. Il s'installe pour 2 ans à Genève, où il doit faire ses études et ensuite va en Italie et en France. Il décrit ses impressions dans ses lettres à son père, rédigées en russe, ainsi que dans les lettres en français, à ses connaissances, dont le professeur Miller, qui a rédigé le plan des études du jeune aristocrate. Le père d'Alexandre, baron Sergueï Grigorievitch, pouvait lire et écrire en français, mais il ne maîtrisait pas pleinement cette langue. Plusieurs fois, bien qu'on dispose de ses lettres françaises à Jean-Antoine, le baron demandait plusieurs fois à son fils d'expliquer les informations nécessaires à son précepteur. Le français servait aux jeunes aristocrates dans ses rencontres auprès de cours allemands. Stroganov visite les spectacles des compagnies françaises à Hanovre et à Strasbourg. Dans son écrit des années 50, sous le titre « Lettre à un ami sur la manière de voyager utilement », Alexandre Sergueïevitch évoque son expérience. À Genève, son enseignement est sûrement en français. Il suit des cours de Vernet, histoire et géographie, de Gelabert, mathématiques, logique, etc. Il apprend le latin et s'occupe de la traduction en français d'un livre Selecta profani scriptoribus historia. Plusieurs manuscrits français conservés dans les archives de Stroganov témoignent de ses études. Par exemple, lettre à Monsieur le baron Alexandre Stroganov sur le gouvernement de Genève, lettre sur l'église de Genève, sur son culte, sa discipline et son gouvernement, addition à diverses parties du droit naturel de Bourg-le-Maquis, etc. Après 2 années passées à Genève, Stroganov va en Italie. Ici, il rencontre plusieurs amateurs italiens et français. À Jeun, il fait la connaissance de l'abbé Barthélemy, un des bons antiquaires de la France. À Véron, il rencontre un français nommé M. Séguier, qui est très savant homme et qui possède un des plus beaux cabinets d'histoire naturelle que j'ai eu, écrit-il. De l'Italie, il va en France. Il monte à Paris par Antibes, Toulon, Marseille, Aix-en-Provence, Nîmes, Avignon, Lyon. Ici, à Lyon, il profite de la proximité de Genève pour faire connaissance avec Voltaire. Nous n'avons pas d'informations précises sur cette rencontre, mais on sait que le philosophe remet au jeune prince une lettre reçue de Paris sur le tremblement de terre à Lisbonne, événement qui a frappé les esprits en Europe. À son tour, Stroganov envoie ce texte à Saint-Pétersbourg. Ainsi, il entre dans les grandes discussions de l'époque. Au tout début du mois de janvier 1956, il est à Paris. Pendant son séjour dans la capitale française, il apprend la physique expérimentale, la chimie. Il suit les cours de d'équitation, apprend l'art de danser, y visite les bars. Alexandre revient en Russie en 1957, après la mort du baron Sergueï Grigorievitch, donc il devient l'héritier de la grande propriété de Stroganov. Il reçoit une position importante à la cour d'Elisabeth, ensuite à la cour de Catherine II. Il poursuit ses occupations des sciences et des beaux-arts, visite les conférences publiques des professeurs de l'Académie des sciences, fait l'échange avec le cabinet français d'histoire naturelle, participe à la polémique littéraire, par exemple au conflit Lomonossov et Somarov. On peut avoir une idée de ses intérêts grâce au cahier des années 60 intitulé « Esprit de ma lecture ». Dans ce manuscrit, les extraits des ouvrages lus sont classés dans un ordre particulier, d'après les sujets. Les sections ont pour titre « De la liberté », »,« De la police », etc. Les auteurs cités sont Bilefi, Montesquieu, Frédéric le Grand et sans doute Voltaire, mais c'est toujours en français. À cette époque, Stroganov devient un membre énergique d'un cercle des amateurs de lettres françaises qui unit des francophiles russes et des étrangers, séjournant à Saint-Pétersbourg, d'après l'expression de Pavel Berkov, un salon franco-russe, dont Stroganov fut l'acteur principal. Un manuscrit du début des années 60 nous donne une idée de la constitution de ce réseau francophone. Ce petit cahier sous le titre « Promémoria de livres prêtés » a enregistré le nom de plusieurs visiteurs du palais de Stroganov qui étaient les lecteurs de sa bibliothèque. On voit parmi eux l'impératrice Catherine II elle-même, des gens de la cour, des hommes d'État, des militaires, des représentants de la haute société de Saint-Pétersbourg, ainsi que des savants, des artistes, des hommes de lettres, quelques 50 personnes au total, dont plusieurs étrangers, François-Pierre Cliquetet, correspondant et ami de Voltaire. Comédien Sénépar, l'abbé Faure, auteur d'un discours sur les progrès des beaux-arts en Russie. Le journaliste Abraham-Joseph Chonex, surtout connu comme adversaire de Voltaire. La plupart des livres prêtés sont des imprimés français du XVIIIe siècle. Parmi les auteurs sont D'Alembert, Bossuet, Fénelon, Grétius, Salvestre, Montesquieu et bien sûr toujours Voltaire. Ce sont des livres dont on a parlé à la cour et dans la société, des ouvrages qui seront bientôt traduits en russe. Au moment quand les bibliothèques publiques manquaient à Saint-Pétersbourg, la bibliothèque privée de Stroganov, ouverte pour un large cercle de connaissances du comte, jouait le rôle d'un cabinet de lecture. Les étrangers étaient toujours bien accueillis dans ce palais. Signalons les témoignages des astronomes genevois Pictet et Mallet, qui sont arrivés en Russie en 68 pour observer l'éclipse du soleil et qui fréquentaient le comte Stroganov. Ils ont remarqué plusieurs Français parmi les domestiques et parmi les visiteurs. Par exemple, Charpentier, maître de langue à l'Académie des sciences, auteur d'une grammaire russe. Madame Charpentier, qui était la sœur du peintre de Le Prince. Les comédiens Sénépar et Bourdet. Pictet a noté dans son journal qu'il était impressionné par un Français nommé Dr Girard, le plus grand parleur qui ait jamais existé. En 71, le comte Stroganov va de nouveau à l'étranger, cette fois-ci avec sa femme. Le deuxième séjour en France dure presque 9 ans, mais les archives de la famille ne donnent pas les renseignements sur cette période très importante de la vie du comte. Son réseau de connaissances est devenu très large, très important. Il est en contact avec beaucoup de familles françaises en vue, ainsi qu'avec des célébrités du monde des arts. Il avait du succès dans les salons parisiens, fut admis à la cour royale à Versailles. Il écrit au prince Alexandre Mikhailovitch Galitzine qu'il était présenté au roi. « Sa Majesté m'a fait l'honneur de me parler. Duc de Guillon me marque beaucoup de politesse. » Il fréquente les bibliothèques, les musées, les antiquaires et les ateliers des artistes. Il fait des acquisitions pour lui-même et pour ses compatriotes, y compris l'impératrice. Dans ses lettres, il donne des nouvelles de la vie politique et artistique de Paris. Il s'intéresse toujours à Voltaire et le visite à Ferney avec sa femme. Stroganov n'oublie pas qu'il est attaché au Collège des affaires étrangères. Il se comporte comme un représentant de l'Empire. Bien que les lettres adressées à Galitzine de Paris soient normalement en français, c'est en russe qu'il raconte l'histoire du conflit de sa femme et d'une dame française qui, pendant le dîner chez le duc d'Orléans, se permet de dire des absurdités sur la Russie. Русский сумасбродство России, пишет Стругов. Le fait qu'il est devenu franc-maçon contribuait à son succès dans la société parisienne. Stroganov fut initié à Paris. Il entre dans plusieurs loges françaises et atteint dans peu de temps les hauts grades. En 78, il participe même à la grande cérémonie de réception de Voltaire dans la loge de Neuf-Sœurs, étant parmi les très respectables frères qui devaient préparer le candidat Voltaire. Au cours du séjour de la famille Stroganov à Paris, leur fils Paul fut né. Après le retour en Russie, Alexandre Sergeïevitch confia son éducation au précepteur français Jean Salan, Gilles Béron, franc-maçon comme lui, fervent disciple de Rousseau. La première langue du comte Paul fut évidemment le français, car le garçon a passé en France les premières années de sa vie. Plus tard, il apprend le russe, qui entre dans le programme de ses études rédigées par son père et par son précepteur. Après avoir parcouru de nombreuses régions de Russie, Paul va à Paris, pour effectuer un grand tour, ainsi que son père à l'époque. Les voyageurs s'arrêtent à Genève. Paul rencontre ici les anciens amis et connaissances de son père, par exemple l'historien Vernet, l'astronome Mallet et d'autres. Le programme de ses études prévoit la physique, la chimie, l'équitation, l'escrime, la danse, la musique. Il doit apprendre la langue allemande et ensuite la langue anglaise. Paul suit les cours publics en français, car il ne connaît pas suffisamment le latin, la langue du nombre de cours publics à Genève. donc il prend le cours privé. Les archives de la famille conservent ses notes d'études, exercices de mathématiques, de chimie, éléments de théorie, géographie de l'Empire de Russie, et toutes ces notes sont toujours en français. Mais les lettres de Paul à son père sont en priorité en russe. Il doit garder sa langue maternelle. Après Genève, au début de l'année 89, les voyageurs arrivent à Paris pour étudier les sciences naturelles et exactes. D'après les récits de Rome, Paul s'intéresse aussi à l'histoire de la belle littérature française. Mais la Révolution corrige les plans des études. Rome et Paul fréquentent les réunions des États généraux et de l'Assemblée nationale. Il achète des journaux, des pamphlets, des livres se rapportant à l'actualité politique et les envoie en Russie, au comte Alexandre. Paul veut participer dans les événements politiques et devient le premier et unique membre russe du club des Jacobins. Après le retour en Russie, Paul Stroganov, au début du XIXe siècle, devient un des plus hauts dignitaires de l'Empire, un homme politique participant aux réformes d'Alexandre Ier. Il a pris part dans les grandes batailles de guerre contre Napoléon. En 1806, il remplissait des missions diplomatiques à Londres et ses lettres de l'Angleterre montrent qu'il maîtrise bien la langue anglaise. Au moment de sa mort, en 1817, d'après les témoignages de ses proches, le comte Paul reste conscient et parle en anglais au médecin, en français à son neveu et en russe à son valet. Son épouse, Sophie Vladimirovna, est devenue après sa mort seule et unique propriétaire des grands domaines de comte Stroganov. Cette femme illustre était au centre de la vie intellectuelle de Saint-Pétersbourg. Elle fut respectée par l'empereur et devenue une amie intime de l'impératrice Elisabeth Alexei. Sophie Vladimirovna, enfant, voyageait beaucoup avec sa mère, la princesse Natalie Petrovna Galitsina, fameuse dame de pique. À l'étranger, résida plusieurs années en France. Comme résultat de cette éducation, elle ne maîtrisait pas suffisamment le russe, correspondait avec sa famille toujours en français. La tradition dit qu'elle a appris plus tard la langue maternelle, c'est bien probable, elle a réussi même, c'est la tradition qui dit, à traduire en russe les extraits de Dante. Par contre, on trouve dans les archives la traduction française de l'enfer. Pendant presque 30 ans, la comtesse s'occupait assidûment de l'énorme propriété de Stroganov. C'est elle qui a fait inventarier de nouveau toute la bibliothèque de la famille. On peut reconstruire cette belle collection grâce à une série de catalogues manuscrits qui presque tous sont en français, ainsi que le catalogue de peintures du palais de Stroganov rédigé par le comte Alexandre lui-même. Alexandre Sergeïevitch Stroganov, qui a hérité de ses ancêtres de nombreux ouvrages russes, a rempli sa bibliothèque de la littérature européenne et en priorité de livres français. Le fonds étranger comptait plus que 3000 titres et le livre français du XVIIIe siècle y prédominait. Le fait qui est banal pour les grandes collections des aristocrates. Mais une particularité marquante de cette collection fut la présence de nombreux ouvrages italiens concernant les beaux-arts, témoignages de passion du comte Alexandre. La littérature soi-disant linguistique est placée dans la sous-section Introduction à l'étude des belles-lettres et cours d'études. On trouve ici des grammaires, traités comparatifs des langues, alphabets et dictionnaires polyglottes. La langue française est largement présentée. La comtesse Stroganov avait réuni plusieurs petites collections pour elle-même. Ma petite bibliothèque, ma bibliothèque de la campagne, etc. Il faut signaler le nombre accru de livres anglais dans ses collections. Elle lisait beaucoup. On dispose du journal de ses lectures. Le titre est en anglais, Commonplace Book. Mais les auteurs français sont plus fréquents. On trouve parfois des extraits de traductions françaises des auteurs anglais. Tous les extraits sont classés par matière, par exemple justice, administration, instruction, hypocrisie, etc. Les notes de la comtesse elle-même sont en français. Les auteurs cités sont Lalit Landal, Ferrand, Sénat de Meillan, qui était proche de la maison, Montesquieu, Racine Fils, Madame de Sévigné, Madame d'Épinay, Rollin, David Hume, Sénèque. La note faite en français sur la page de titre du journal annonce « Ce livre est destiné à ma fille Elisabeth ». Il s'agit de la comtesse Elisabeth Paulna, devenue la princesse Saltykova. on trouve dans les archives une multitude de lettres de sa fille Vladimira à cette fille Elisabeth. La comtesse écrit souvent sur les études de langue, sur ses lectures. « Je suis enchantée que tu t'appliques à la langue sclavon, c'est la clé du russe. Et puis, elle est si belle que cette raison seule devrait suffire pour l'étudier. Je compte cet événement occupé. » En attendant, l'italien avance. Je lis le TASS en m'aidant un peu de dictionnaire. Je lis à moi seul Milton et TASS. Et tous les deux me transportent et dégoûtent tous les jours davantage de vers français, qui sont en général plus remplis de mots que de pensées. Les enfants de la comtesse devaient apprendre l'anglais, l'italien, mais le français reste la langue principale de leurs études, la langue de la famille. Pourtant, sa fille aînée, Natalia Pavlovna Stroganova, était passionnée de la culture anglaise. Lady Londonderry, qui a visité la Russie dans les années 30 et qui était étonnée de rencontrer à Saint-Pétersbourg de nombreuses personnes, les dames surtout, parlant anglais, a noté dans son journal « I almost fancied myself in England, see Madame Stroganov receive all the annuals and publications, etc. » Et pour conclure, les archives et les bibliothèques de Comte Stroganov démontrent la présence de la culture française dans leur palais, qui fut un des centres de la vie politique, publique et artistique de Saint-Pétersbourg durant une longue période, du siècle des Lumières à l'époque du romantisme. Plusieurs générations de cette famille furent formées à l'étranger et ont emprunté, avec les connaissances parfaites des langues, les traditions de la culture européenne, l'esprit du cosmopolitisme. Mais la francophonie et même la francophilie coexistaient chez eux avec des sentiments profonds de la fierté nationale. Cette union fut une particularité marquante de l'activité philanthropique et civilisatrice du comte Alexandre Sergeïevitch Stroganov et de la vie de ses descendants. Merci de votre attention.